vers une économie écologiquement et socialement soutenable, la prospective bioéconomique. Le moment historique que nous vivons est sans aucun doute extrêmement vivant du point de vue intellectuel. Dans le monde des alternatives au système économique néolibéral, on assiste à un bouillonnement extraordinaire d'idées et d'initiatives. Beaucoup d'observateurs se posent la question : disposons-nous aujourd'hui d'une théorie économique alternative qui sache recomposer les pièces de cet autrement en construction vers une économie écologiquement et socialement soutenable ? Certes, nous sommes devant une fresque au tracé encore incertain, aux figures encore incomplètes, mais essentiellement, c'est que l'on puisse déjà entrevoir une épistémologie et la structure des relations qui existent entre les sujets principaux. Dans la première partie de mon travail, la relecture des fondements biologiques du processus économique et de la théorie des systèmes complexes nous fournira d'abord une assise épistémologique commune au projet pour une économie écologiquement et socialement durable. Dans la deuxième partie, j'ai essayé de fournir une représentation analytique de ce que Ivan Illich aurait défini un équilibre multidimensionnel du système socio-bioéconomique. Elle comprend un nouvel modèle du comportement du consommateur qui, intégré avec la théorie de la production de Georges Scouragen, offre une vision systémique et multidimensionnelle du process bioéconomique. La troisième partie présente une analyse de la dynamique du système socio-bioéconomique. Elle permet de mettre en évidence certains circuits potentiellement autodestructifs propres à l'économie néolibérale et en offre une clé de lecture commune. Pour conclure, nous présenterons des lignes d'intervention possibles qui devraient compenser les effets destructeurs illustrés précédemment. Et la deuxième et la troisième partie, je renvoie à l'introduction de bioéconomie. Je n'ai pas le temps d'illustrer ici. Première partie, épistémologie. Cette première partie constitue la tentative de revoir de façon critique l'économie standard selon certains principes fondamentaux qui caractérisent les systèmes complexes. Ces systèmes, en particulier les systèmes biologiques et écologiques, présentent certaines caractéristiques formelles sur lesquelles il sera bon de s'arrêter. Entropie. S'il est vrai, comme l'a démontré Georges Scouragen, que toute l'activité économique s'engendre une réversible dégradation des matières et d'énergie en quantité croissante, il nous faut en tirer deux conclusions importantes pour l'économie. La première est d'ordre pratique. L'objectif que sous-tend l'économie moderne, la croissance économique illimitée, s'opposant aux lois fondamentales de la nature, doit être abandonné ou tout au moins radicalement revu. Il est clair désormais que du point de vue thermodynamique, la décroissance est une nécessité. Premièrement, les systèmes biologiques n'étendent à la maximalisation d'aucune variable. Si nous excluons la variable générale de la survie de l'espèce, nous ne pouvons affirmer que le système biologique vise la maximalisation d'un but unique auquel les autres variables seraient subordonnées. En général, si la valeur d'une variable est trop élevée ou trop basse, elle devient dangereuse pour l'organisme. Ainsi, trop d'oxygène provoque la combustion des tissus, trop peu en provoque l'asphyxie. Il existe dans le monde biologique des seuils que l'on ne peut franchir. Ce principe s'oppose fortement aux thèses de la théorie économique dominante, pour laquelle les comportements des sujets économiques fondamentaux sont de type maximisant au niveau microéconomique, maximum du profit pour l'entreprise et d'utilité pour le consommateur, ainsi qu'au niveau macroéconomique. Croissance du revenu et de la production. Le PMB, qui comprend dans son calcul toutes sortes d'activités économiques, est bien plus une prise de température du système économique qu'une représentation de l'indice du bien-être des individus. Stimuler sans cesse l'augmentation du PNB dans une société hyper-industrialisée revient à provoquer une ultérieure augmentation de la température chez un patient déjà fiévreux. Comment? Deuxièmement, les systèmes biologiques ont une pluralité d'objectifs. Dans les mondes biologiques, en particulier chez les mammifères, ceux-ci présentent un système de valeurs multidimensionnelles. Cette caractéristique contraste elle aussi avec les axiomes de la théorie économique dominante. Certaines hypothèses spécifiques ont été introduites pour garantir que le bien-être produit par la consommation de n'importe quel bien puisse être ordonné le long du même indice monodimensionnel, l'utilité. Comme l'a démontré Georgescu Rogen, l'on ne peut utiliser l'axe unidimensionnel pour des séries d'activités différentes, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de possibilité de substitution entre les biens. L'expérience de tous les jours nous l'enseigne. L'accès à l'internet ne peut être un bon substitut pour la personne qui meurt de soif, de la même manière que la distribution des pains de part de l'association humanitaire ne peut remplacer les besoins de justice et de dignité de l'individu. Troisièmement, les systèmes biologiques présentent une combinaison de comportements de type compétitif et coopératif. Plus précisément, dans un contexte expansif, ce sont les comportements compétitifs qui déterminent le succès et le développement de l'espèce, alors que dans un contexte non expansif d'équilibre, ce sont les comportements coopératifs qui en déterminent le succès. Contrairement à ce qu'affirme la théorie libérale, maximiser la compétition à travers la concurrence parfaite entre les sujets économiques ne produit pas nécessairement les résultats optimaux. Il est probable que des sujets ou des comportements particulièrement compétitifs soient gagnants dans des contextes expansifs. L'Homo sapiens a évolué à travers une perpétuelle conquête et colonisation de nouveaux territoires et cela en compétition avec d'autres espèces. Agressivité et attitude compétitive sont donc profondément inscrites dans son parcours évolutif. Plus récemment, l'aventure de la modernité, avec sa culture individualiste et compétitive, est née et a évolué dans un contexte expansif caractérisé par la conquête des nouveaux continents, Amérique, Inde, etc., et des nouveaux espaces intellectuels, sciences, techniques, etc. Ce n'est pas par hasard, enfin, que l'esprit économique américain, particulièrement individualiste et compétitif, s'est forgé dans l'expérience de l'expansion vers l'Ouest. Par contre, dans des conditions non expansives, qui sont celles vers lesquelles tend nécessairement l'espèce humaine, puisque les écosystèmes terrestres sont presque tous colonisés, ce sont les comportements coopératifs qui donnent les meilleurs résultats. Point 5. Dans un contexte non expansif, un certain degré de compétition entre espèces différentes favorise le développement des écosystèmes. Au contraire, la compétition entre des membres d'une même espèce, la compétition intraspécifique, nuit généralement et réduit donc la possibilité de survie de l'espèce même. Pourquoi, dans le long parcours de l'évolution, l'action de la pression compétitive entre les espèces a-t-elle produit une incroyable expansion de la biodiversité, alors que dans le contexte économique global, la pression compétitive semble engendrer uniformité et perte de diversité? La réponse à cette question pourrait se résumer dans le fait que dans la nature, la compétition se fait principalement entre des espèces différentes, alors que dans le système économique global, la concurrence se fait entre produits et technologies semblables. les cas des chaussures Nike et d'autres sociétés qui sont produites au même endroit ou souvent dans les mêmes établissements, on peut donner un exemple éloquent. Et globalement, une seule donnée pour toutes. Globalement, le coût du travail dans les usines de chaussures Nike est gravé sur les prix de produits finis pour moins de 0,2%. Donc, dans cette cour au rabais, celui qui réussira à exploiter plus et mieux les travailleurs, qui réussira à payer moins d'impôts ou à éluder les contrôles sur l'environnement, sera favorisé dans la dynamique compétitive. Les cas que l'on pourrait rapporter sont infinis et l'affiage des dynamiques compétitives liées au processus de globalisation offre continuellement de nouveaux exemples. Au contraire, un certain niveau de compétition entre sujets différents, c'est-à-dire qui utilisent différentes formes d'organisation du travail ou différentes technologies, des entreprises de l'économie solidaire, par exemple, favorise l'augmentation de la différence, donc de la richesse sociale et économique. Ici. Il est juste, à mon sens, d'esquisser en conclusion certains des processus compensatoires qui pourraient servir de remède à l'actuelle crise écologique et sociale. Ce qu'importe, c'est de définir certains critères méthodologiques généraux. Premièrement, il faut atteindre un équilibre multidimensionnel entre les différents systèmes. Économique, biologique, social. Deuxièmement, les interventions qui compensent les dynamiques autocroissantes vont dans le bon sens. Le premier point illustre le sens authentique de la décroissance. La décroissance est nécessaire non seulement pour respecter l'équilibre de la biosphère, les indicateurs à ce propos sont déjà disponibles et concordants, mais aussi pour limiter les dommages sociaux des développements et accroître le bien-vivre. La décroissance signifie surtout la réduction des dimensions des différentes institutions et organisations qui gèrent la production, les multinationales, les organisations financières et en général les dimensions des marchés et des organisations productives. Les écosystèmes ne sont pas indifférents aux problèmes d'échelle. Cela est indispensable pour favoriser la naissance d'une société conviviale, c'est-à-dire respectueuse de l'autonomie personnelle des sujets. La réduction des dimensions des instruments de la méga-machine comportera probablement une perte d'efficacité, mais certainement une consistante augmentation du bien-vivre. À ce propos, nous ne pouvons éluder la nécessité d'élaborer de nouveaux indicateurs de bien-être, au mieux de bien-vivre, alternatifs au PMB. Des indicateurs ont été élaborés, un grand nombre, mais il leur manque une solide et commune référence théorique. L'un des objectifs de cette association pourrait être celui de suggérer certains critères de base pour une évaluation du bien-vivre dans une société conviviale. Il accomplirait les tâches indispensables, à savoir celle de restituer les sentiments collectifs de la perte de bien-vivre en acte et de proposer des voies possibles. Ces indices devraient, à mon sens, respecter les critères suivants. A. Le caractère multidimensionnel du concept du bien-vivre, multidimensionnel, et donc le principe de non-substitutivité entre les différents besoins, contrairement à la théorie néoclassique. B. Les justes évaluations des seuils au-delà desquels la consommation des biens et des services détermine nuit à la structure des autres systèmes. Deuxièmement, compenser les spirales autocroissantes. Le premier cercle vicieux que nous avons analysé est celui qui mène à travers les progrès technologiques de la recherche de l'efficacité à l'augmentation des inégalités économiques et sociales, la spirale des revenus. Excusez-moi. La société civile a depuis toujours mis au point des formes de réaction qui peuvent globalement mitiger les effets de la polarisation de la richesse produite par le développement économique. La formation d'un syndicat influent, un système d'imposition progressive, la présence d'institutions d'assistance et de prévoyance sociale. Cependant, ces phénomènes de réaction ne doivent pas forcément être interprétés comme des phénomènes positifs. Le développement d'institutions de gouvernement global, d'une force militaire internationale ou la croissance d'un syndicat institutionnel dans les pays du sud-est asiatique, par exemple, ne comporte pas le passage automatique vers une société plus conviviale. Mais au contraire, ils peuvent, en certains cas, représenter un remède plus grave que le mal. En effet, la deuxième partie nous a fait comprendre comment ces grandes institutions ont besoin, pour maintenir leur structure, d'une part d'énormes quantités de matière et énergie, et d'autre part d'un très gros investissement en termes de travail sous des formes non conviviales. Il faudra donc tenir compte à la fois des deux critères, l'équilibre multidimensionnel et la compensation des spirales autocroissantes. Par exemple, les expériences variées que nous résumons sur les normes d'économie solidaire et durable expérimentent des solutions économiques qui compensent les cercles vicieux de l'économie standard à travers des formes d'organisation de type généralement convivial. Par exemple, l'expérience des réseaux d'économie solidaire, la nouvelle NERS en Italie, est particulièrement intéressante. Je pense que l'économie solidaire peut représenter pour le futur un réel substitut à la consommation des biens traditionnels. Elle compense l'angoisse qui est à la base de la manière classique de consommer et permet de s'approcher des conditions d'une économie soutenable et conviviale. La production des biens relationnels comporte en effet une dégradation généralement limitée des matières et d'énergie. Quant au phénomène d'exploitation, de tertiarisation sauvage, le dumping social et environnemental jusqu'à la diffusion de véritables formes d'économie illégale, nous avons démontré qu'ils sont dus aux dynamiques de la sélection intraspécifique déclenchée par les excès compétitifs de l'économie globale. Il est évident que contre ces comportements déviants, la société civile prévoit depuis toujours des formes de contrôle, mais elles ne sont pas efficace. Dans ce cas également, une réflexion plus approfondie s'impose. Excusez-moi. La première conclusion est que les typologies de marchés les plus aptes à maintenir les équilibres écologiques et sociaux ne sont pas celles où la concurrence est poussée au maximum, concurrence parfaite, ni celles où la concurrence est au minimum, marché oligopolistique dominé par les grandes entreprises transnationales. En effet, les formes de marchés intermédiaires permettent d'une part à des organisations de petite dimension, donc potentiellement convivial, de disposer de marges plus amples par rapport au marché parfaitement concurrentiel, leur consent ainsi de correspondre à des salaires plus élevés et de recourir à l'outsourcing de façon plus limitée. Et d'autre part, d'éviter la fourchette des revenus caractéristique des marchés dominés par les grandes entreprises transnationales. Ces formes de marché pourraient être stimulées par une différenciation importante du produit, obtenue non pas à travers les instruments publicitaires traditionnels, mais à travers une différenciation qualitative de l'offre. On sait que certaines zones de l'Europe et de la Méditerranée en particulier sont déjà caractérisées par un type de structure économique fortement diversifiée. Les moyens de pratiquer cette différenciation sont nombreux. Il s'agira par exemple d'imaginer de réaliser de nouvelles institutions et organisations productives, petites et conviviales, de nouvelles relations de travail solidaires et participatives, de nouvelles façons de produire écologiquement soutenables, d'offrir des biens ou services locaux liés à un territoire déterminé en tant qu'expression d'une certaine culture ou tradition, ou enfin des produits non standardisés, des hauts contenus de connaissances et informations. Créer, en somme, un monde riche en qualité et diversité qui, comme nous l'enseigne les sciences de la vie, est le seul contexte dans lequel un certain degré de compétition devient véhicule de richesses ultérieures et non la cause de l'aplatissement global et de la destruction réciproque. Merci.